Du coup, je vais vous parler de mon travail de thèse en urbanisme et en aménagement du territoire qui a porté sur la lutte antivectorielle, en particulier contre un moustique vecteur que vous connaissez peut-être, Aedes albopictus, dit plus communément appelé le moustique tigre. Et bon, toute la question va être pourquoi, quand on fait une thèse en urbanisme et en aménagement du territoire, devrait-on s'intéresser à un moustique et aux maladies qu'il transmet? Et c'est la question que je suis allée poser à d'autres acteurs de la ville et du bâtiment, pour justement voir comment est-ce qu'on pourrait réfléchir à ces questions ensemble avec les spécialistes de la santé publique, de la santé et les autres acteurs de la lutte antivectorielle en France. Donc on va commencer par un petit retour sur le contexte vis-à-vis des luttes antivectorielles et du moustique tigre en France et ailleurs. Il faut savoir que le moustique est notre ennemi numéro un non humain, et même avec les humains, avec 700 000 décès par an qui sont dus aux maladies vectorielles transmises par le moustique. Ce qui fait que vous pouvez oublier les alligators, les crocodiles, les lions, les serpents, les araignées. Le seul que vous devriez craindre dans votre vie, c'est le moustique. Le moustique, en particulier les maladies vectorielles, ont été un problème qui a relativement beaucoup diminué, voire disparu de beaucoup de nombreux pays du Nord. Mais avec l'arrivée d'Aedes albopictus un peu partout dans le monde, et notamment dans la France de l'Hexagone, ce sont des problématiques qui tendent à réémerger. D'autant plus que les maladies transmises par le moustique tigre, notamment le chikungunya, le zika et la dengue, sont des maladies aujourd'hui qui ont des traitements ou des vaccins qui sont soit en cours d'achèvement, soit totalement inexistants. Actuellement, il y a un vaccin très prometteur contre le chikungunya qui va bientôt arriver sur le marché. Mais pour zika ou même pour le paludisme ou la dengue, c'est encore compliqué. C'est d'autant plus compliqué que la prolifération du moustique tigre est liée à des problématiques plus globales, notamment la mondialisation ou l'urbanisation, soutenue par les effets du changement climatique et la crise de la biodiversité. C'est un problème aussi avec lequel les êtres humains combattent, en fait, avec lequel ils se débrouillent comme ils peuvent depuis très longtemps, puisqu'on a des archives qui datent de l'Antiquité, enfin des documents qui datent de l'Antiquité et qui recommandaient déjà de s'éloigner des zones considérées comme impropres, comme les marais par exemple. À l'époque, c'était pas encore relié aux moustiques. Néanmoins, on avait déjà des conseils en urbanisme qui suggéraient de ne pas fonder des villes ou des installations humaines à proximité des marais. Mais dès le début du XXe, on observe une régression du paludisme qui est associée à la fois à des progrès dans les sciences et dans la médecine, mais aussi à une évolution du contexte environnemental, des pratiques agricoles et des évolutions sociales comme l'exode rural, par exemple. Dès la fin des années 40, les derniers cas de paludisme autochtone en France continentale, en France de l'Hexagone, disparaissent. Et donc les premières grandes politique de démoustication vise non pas un but sanitaire, mais un objectif de confort. Ces pratiques assez critiquées vont subir un processus d'écologisation à partir des années 90-2000, en particulier dans les zones protégées comme la Camargue. Mais dès 2004, on observe l'introduction d'Aedes albopictus dans l'Hexagone et son installation sur place. Et depuis, sa zone de répartition va progresser pour s'étendre jusqu'à Paris aujourd'hui, par exemple. Dès 2006, on développe un plan de lutte anti-dissémination des maladies vectorielles propres à l'Hexagone, puisqu'il en existait déjà un pour les grandes com, par exemple. Et dès 2010, malgré ces précautions, on observe les premiers cas autochtones de maladies vectorielles, et en particulier de chikungunya, dans l'Hexagone. Le plan de 2006 a évolué depuis. Maintenant, c'est la lutte antivectorielle, donc la lutte contre la propagation de ces maladies, est essentiellement allouée aux ARS. Ici, on va surtout parler de l'ARS PACA. Et ces ARS peuvent charger un organisme public ou privé de reprendre cette charge de lutte antivectorielle. Dans la région PACA, c'est l'EID Méditerranée, qui est un organisme public, mais par exemple, du côté de la façade Atlantis, c'est Atlantique, c'est Altopictus, qui est un organisme privé. Et dans les cas de crise, on a le dispositif Orsec qui est mis en place par la préfecture. Il y a d'autres acteurs dans la lutte antivectorielle en France, notamment les municipalités qui sont chargées de prendre en compte les plaintes, notamment liées au confort, liées à la prolifération des moustiques dans certaines zones, mais également les médecins qui font des retours sur les cas de maladies vectorielles qu'ils observent pour éventuellement mesurer le nombre de cas présents sur le territoire et monitorer l'apparition d'éventuels cas autochtones pour ensuite pouvoir intervenir et lancer justement des moustications d'adultes moins responsables écologiquement et qui peuvent aussi entraîner des résistances aux insecticides des adultes mais qui sont néanmoins mis en place pour lutter contre la propagation de ces maladies. Il y a d'autres acteurs de la lutte antivectorielle, c'est évidemment les habitants. Alors ce sont des acteurs qui ont été étudiés notamment par le NPED avec le programme ProLitensant qui est arrivé à identifier plusieurs facteurs et freins à la mise en place de gestes de lutte antivectorielle. Alors il y a bien sûr la méconnaissance ou la non-connaissance des gestes de lutte antivectorielle qui peuvent être mis en place par les habitants, comme notamment la lutte contre les gîtes larvaires, donc les lieux où pondent et où les moustiques et où se développent les larves. Si on empêche les moustiques, les larves de se développer en adultes, on limite le nombre d'adultes, et donc le nombre d'adultes capables de transmettre les maladies. C'est donc un geste de lutte antivectorielle. On peut connaître très bien les gestes de lutte antivectorielle, mais refuser de les appliquer pour des facteurs culturels. Par exemple, on imagine qu'il ne peut pas y avoir de moustiques dans notre beau jardin tout propre, parce qu'un moustique c'est sale, alors que pas nécessairement, voire pas du tout. On peut aussi ne pas accepter que le moustique vive près de nous, chez nous, et que c'est un animal relié au marais, au sauvage, et jamais à un beau petit jardin de banlieue, ou même une jolie terrasse en pleine ville. Il y a aussi des facteurs sociopolitiques, par exemple reporter la responsabilité de la présence de moustiques sur ses voisins, en disant que c'est eux qui font mal les choses. On peut aussi considérer, en particulier en France de l'Hexagone, c'était quelque chose qui apparaissait dans les enquêtes, que c'est un problème qui doit être géré par la puissance publique, et que c'est à eux de démoustiquer, puisque ça a été longtemps le cas. Et enfin, il y a la nuisance des moustiques non vecteurs, c'est-à-dire que certains gestes qui sont efficaces contre certaines espèces de moustiques vectrices ne sont pas efficaces contre d'autres moustiques non vecteurs. Parce que justement, ils n'ont pas les mêmes types de gîtes larvaires, les mêmes heures d'activité, ce genre de choses. Enfin, on va arriver aux freins qui m'ont intéressé dans ma thèse, c'est les freins qui font que même si on connaît les gestes et qu'on les applique, il y a quand même des moustiques qui sont présents dans notre environnement. C'est lié à des facteurs cognitifs qui font que beaucoup de gîtes larvaires qui, pour le moustique tigre, sont souvent petits et cachés, sont invisibles et on n'arrive pas à les repérer. Mais pire encore, il y a des facteurs ergonomiques qui font que la conception des jardins et des bâtiments crée des espaces propices à l'apparition de nombreux gîtes larvaires dans les habitations et dans les bâtiments. Il y a par exemple, on peut compter les gouttières, les chenaux, les noues et globalement tous les outils de gestion des eaux pluviales, les puisards, les regards, les avaloirs, les collecteurs d'eau pluviale aussi. Il y a par exemple aussi tous les toits terrasses et les terrasses qui, en fonction de comment ils ont été conçus et mis en place, peuvent créer des renfoncements, des irrégularités qui font que de nombreux volumes d'eau stagnante se créent sur les toits et les terrasses. Dans des zones abritées et où les moustiques peuvent se cacher, où les larves peuvent se développer en paix. C'est notamment le cas, par exemple, des zones sous les dalles surplomb, qui sont souvent avec une pente nulle, et qui fait que quelques irrégularités dans l'installation mènent à l'apparition de creux, et donc de lames d'eau, parfois assez grandes, où les moustiques adorent pondre, parce que c'est un endroit qui ne sera jamais repéré, et qui est à l'abri de beaucoup de traitements contre les larves. Donc ici, je vous présente l'objet de ma thèse, Aedes albopictus, le moustique tigre. Il est enchanté de vous rencontrer, probablement qu'il l'a déjà fait plus intimement. Et cette remarque faite par le programme ProLitensant et cette distinction entre gîtes larvaires comportementaux, par exemple, qui peuvent être sur lesquels les habitants peuvent intervenir en adaptant leur comportement aux gîtes larvaires, comme par exemple ceux qui peuvent apparaître dans les pots de fleurs ou dans les coupelles, les jouets, les objets qui sont présents dans le jardin et qu'il suffit de renverser pour vider et se débarrasser des larves. Donc ça, c'est un gîte comportemental. Et il y a du coup les gîtes structurels liés à la structure, à la manière dont on a conçu et construit le bâti et qui, eux, sont, peuvent être qualifiés de tonneaux des Danaïdes inversés, c'est-à-dire qu'ils se remplissent sans cesse et qu'il est difficile, voire impossible de les vider, alors que le tonneau des Danaïdes, normalement, c'est on essaye de vider quelque chose, enfin, on essaye de remplir quelque chose de percé. Là, c'est de vider quelque chose qui s'emplit constamment. Fait que ont été identifiés d'autres acteurs à la lutte antivectorielle. Alors, je vous rappelle qu'actuellement, on a surtout des acteurs de la santé publique et de la santé tout court, les membres de l'ARS, les membres de l'EID Méditerranée, notamment les entomologistes qui repèrent et étudient le moustique, et les médecins qui font des retours vers l'ARS de l'apparition de cas de maladies vectorielles, puis enfin les habitants qui sont considérés comme la population générale qui interviennent dans leur milieu de vie. Et via ce programme et les recherches qui en ont découlé, d'autres acteurs ont été identifiés, et notamment ceux qu'ils ont appelés les faiseurs de goût et les concepteurs. Ici, c'est à eux et à la puissance publique qu'on va s'intéresser, notamment les concepteurs de la ville et de l'urbain et des bâtiments. La santé et la ville, la conception de la ville et la santé, ce sont deux points qui ont été reliés dès l'origine de l'apparition de l'urbanisme en tant que discipline, vers le 19e siècle, même si le lien entre conception de l'urbain et la santé remonte à la conception des premières villes dès l'Antiquité. Le problème, c'est que les notions de santé modernes, qui sont liées à la définition de bien-être par l'OMS, n'ont rien à voir avec les notions de santé qui sont mobilisées par les architectes, les urbanistes ou tous les professionnels de la ville, qui fonctionnent sur des notions de salubrité et d'hygiène, qui sont liées, mais un petit peu différentes qu'une notion de bien-être. De plus, l'urbain et la manière dont on le conçoit a un impact sur notre qualité de vie en tant que cadre de vie qui est conçu et géré par les humains. Il peut être impacté notamment par la pollution, les comportements et usages, les inégalités de santé et les gestions antagonistes et synergiques de certains enjeux et de certaines problématiques. De l'autre côté, parmi ces enjeux, on a aussi l'idée d'avoir une conception durable et environnementale de l'urbain, notamment à la base en luttant contre le changement climatique par l'économie d'énergie, ce qui n'est pas forcément durable à proprement parler, mais c'était l'idée de lutter contre le changement climatique en créant des habitations qui permettent de limiter la dépense énergétique. Mais maintenant, on y a introduit aussi l'idée de préserver et de valoriser la biodiversité présente dans les villes, voire de la réintroduire lorsqu'elle est manquante, par différentes activités. Et cette idée de, à la fois, préserver la santé et de préserver la biodiversité, dans le cas du moustique-tigre, ce sont deux idées antagonistes. Et l'idée de justement vouloir préserver et valoriser la biodiversité dans les villes, la question, ça va être préserver la biodiversité, mais laquelle ? Doit-on préserver la biodiversité lorsqu'elle est antagoniste aux intérêts humains ? Parce qu'on parlait tout à l'heure d'un petit poisson qui avait tous les droits de vivre dans son lac salé. Est-ce qu'un moustique qui crée 700 000 morts ? Est-ce que les moustiques, dont ceux qui sont responsables de 700 000 morts par an, ont le droit de vivre avec nous ? Comment doit-on gérer la cohabitation avec eux ? Et toute l'idée de cette thèse, c'est plutôt que de lutter directement contre eux, de chercher à les tuer, ce qu'on essaye de faire depuis quelques milliers d'années, peut-être devrions-nous revenir à un impact sur l'environnement et casser en fait les liens qui existent entre pathogènes, moustiques, vecteurs et humains. Comment casser ce lien en impactant l'environnement qui relie ces trois piliers ? Donc l'objectif, c'est d'identifier les obstacles socio-professionnels et réglementaires à la mise en place d'une stratégie urbaine de lutte antivectorielle. L'idée, c'est de s'appuyer sur les aspects prospectifs et opérationnels de l'urbanisme, avec une réflexion orientée vers l'action. Notamment quand on travaille avec des professionnels qui, justement, sont dans cette action, c'est très important d'intégrer un volet opérationnel à la recherche et les préconisations, puisque c'est ça qui vont les intéresser, c'est ce qu'ils vont constamment demander. Les hypothèses, il y en avait deux, à la fois une liée aux natures et à la caractéristique des gîtes larvaires urbains, et l'autre aux questions sanitaires et environnementales liées à la lutte antivectorielle. Ici, je vais surtout m'intéresser à la part de la méthodologie mise en place dans ma thèse qui était basée sur des entretiens avec des professionnels de l'urbain et du bâtiment. Il y avait aussi une phase avec des explorations de terrain et des visites et d'observations de la ville sur le terrain, notamment dans les villes d'art de Marseille et de Salon-de-Provence, pour observer comment se passent et comment apparaissent les gîtes larvaires sur place. Mais ici, je vais surtout m'intéresser aux acteurs de la lutte antivectorielle et à ceux que j'ai choisi d'interroger. Alors les acteurs principaux, on les a identifiés un petit peu tout à l'heure, il y a les pouvoirs publics, les professionnels de la santé et de la santé publique, et l'habitant et la population générale. Comme on voit, tous ces acteurs ont déjà été plus ou moins étudiés, notamment dans la France de l'Hexagone, par d'autres chercheurs avant moi. D'où le choix de se focaliser à présent sur les acteurs du bâtiment et de la ville, pour voir comment est-ce qu'on peut introduire cette idée dans leur pratique professionnelle. Pour commencer, il y a de nombreux acteurs dans le bâtiment et la ville, notamment les personnes qui construisent directement les bâtiments, mais on a décidé de s'intéresser en priorité à ceux qui les conçoivent. Puisque s'il y a un problème dès le niveau de la conception, peu importe les pratiques des constructeurs, si le défaut est dès le plan, il sera toujours répété et réutilisé en continu. Ça impliquait notamment la maîtrise d'ouvrage, donc ceux qui sont responsables notamment des programmes, de ce qui est construit et à quel prix c'est construit. La maîtrise d'œuvre qui va surtout être responsable de comment le programme est mis en place, par quels moyens, avec quelles techniques. Et enfin, tous les services d'administration, de régulation et de préconisation qui encadrent les pratiques de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre par des normes et des réglementations, mais aussi par différents labels qui permettent de créer aussi des habitats et des environnements urbains dits exemplaires. On pense à la charte éco-quartier ou à la charte haute qualité environnementale, par exemple. Donc, les textes cadres et acteurs normatifs dans le domaine de la construction, l'idée qui est venue en premier lieu pour intégrer la lutte antivectorielle aux pratiques du bâtiment et de l'urbain, c'est de passer par la voie réglementaire. Parce qu'en fait, le processus de création de réglementation dans le domaine du bâti, c'est de passer souvent par des chartes qui au début sont facultatives, comme les chartes éco-quartier ou les chartes HQE, et qui au fur et à mesure vont s'imposer jusqu'à créer des lois. On peut penser par exemple à la réglementation thermique 2012 qui est venue imposer quelque chose qui était auparavant facultatif pour laisser le temps aux professionnels d'apprendre à gérer ces nouvelles contraintes et aux industriels de créer les outils et les équipements qui permettent de correspondre aux exigences de la nouvelle loi. Ce qui crée un petit processus d'adaptation. Et parmi les personnes interrogées, il y avait cependant quelques oppositions. En fait, le passage par la réglementation, c'est une méthode qui crée autant d'enthousiasme, on va dire, par exemple, chez les ingénieurs qui trouvaient que c'était une très bonne manière de faire, parce que ça permettait à la fois, pour eux en tout cas, de sensibiliser et d'imposer. Et en même temps, ça crée aussi pas mal de réticences et même un sentiment d'étouffement pour les architectes, par exemple, qui étaient vachement plus critiques de cette approche et qui voulaient qu'on cesse de leur imposer de nouvelles responsabilités qu'ils considéraient pas comme étant pas nécessairement de la leur. En particulier avec les questions sur la santé et l'environnement, parfois ils avaient du mal à identifier dans un premier temps leur impact sur ces enjeux, mais au fur et à mesure des discussions et des entretiens, ils finissaient d'eux-mêmes par faire le lien entre ce qu'ils faisaient en tant que professionnels et ce qu'ils pouvaient continuer et les impacts sur les enjeux dont on parlait. Il y a aussi des problématiques entre les hiérarchies, entre les règles et les enjeux. Le monde du bâtiment, c'est effectivement un domaine qui implique de nombreux enjeux d'intérêt public, mais c'est aussi une industrie particulièrement riche. Et l'enjeu économique est parfois ce qui est prévalent. En particulier quand on parle aux professionnels, non pas forcément que du bâti, mais de la ville, la croissance des villes est l'objectif numéro un de l'objet ville actuellement. Et il s'agit à la fois de l'encadrer pour la rendre peut-être plus vertueuse, mais aussi de la laisser exister et de la faciliter. Donc ce sont deux enjeux en antagonistes qui nécessitent un certain équilibrage, au point qu'un professionnel de l'urbanisme qui travaillait dans le service de la métropole m'a dit « Bon, ben, les associations écologiques nous en veulent pour le futur PLU, donc le futur plan local d'urbanisme. Et en même temps, les maîtres d'ouvrage, les promoteurs nous en veulent aussi. C'est donc qu'on a trouvé le bon équilibre. Si on se fait engueuler par tout le monde, c'est que c'est bon. » Il y a aussi la notion, et ça c'est très important, et c'était quelque chose que les architectes ont beaucoup mis en avant, la notion de retour d'expérience et de vérification de l'application des règles. Il y a actuellement, en particulier pour les logements, très peu de moyens de vérifier que les règles qui ont été mises en place ont été bel et bien appliquées. Il y a en fait le permis de construire qui est vérifié par les services d'urbanisme, et c'est à peu près tout. Les bâtiments ne seront pas visités ensuite une fois construits. Après, il y a ensuite les actions qui pourraient être spécifiques à la lutte antivectorielle, comme par exemple la création d'exemples de constructions antivectorielles, ce qui actuellement est assez peu. Et enfin, des communications qui seraient adaptées à ces professionnels et qui aujourd'hui n'existent pas. Donc les origines liées au gîte l'inverse, c'est à la fois la vétusté du bâtiment, mais des fois même des équipements qui sont directement liés à la rétention d'eau. Il y a différents facteurs qu'on avait déjà identifiés par le programme Pour le Sang qui créent des freins, mais on peut aussi en identifier d'autres comme la culture professionnelle, les facteurs institutionnels comme la segmentation des groupes liés plutôt à la santé et ceux liés plutôt au bâti, et des facteurs réglementaires comme la non-application des normes et l'inadéquation des codes. Et comme préconisation, il y en a diverses et variées, ça va des choses qui sont déjà mises en place comme des aides à l'entretien du bâti privé et la lutte contre l'habitat dégradé, à l'idée justement de s'appuyer davantage sur une conception participative pour créer de la coopération entre les futurs habitants et usagers et les concepteurs des bâtiments. Aujourd'hui, les perspectives de ma thèse se poursuivent au travers d'un projet avec l'ARS qui me propose justement de créer des outils de communication entre les acteurs du bâtiment et de l'urbain et les acteurs de la santé publique et de la santé tout court pour permettre un travail collectif sur ce sujet. Je vous laisse sur cette dernière diapositive pour les questions.
Merci. Donc il nous reste un petit peu moins d'une dizaine de minutes pour les questions.
Bonjour, je me présente Jean-Philippe Vincent, je suis doctorant au CIFRE en urbanisme et dans le territoire de la métropole d'Aix-Marseille et à l'université QCAFL. J'avais juste une question, donc c'est par rapport donc, au choix des villes. Donc j'ai vu qu'il y avait trois territoires, il y avait Marseille, Salon et Arles si je ne me trompe pas. Je voulais savoir en fait en gros juste peut-être plus en détail comment vous avez choisi ces trois territoires.
Alors du coup en fait le choix des villes a été fait pour différentes raisons. Marseille c'était à peu près simple, c'est la ville centrale, c'était une ville qui permettait d'avoir des contacts avec la métropole en particulier. Donc le choix a été rapidement fait. J'avais aussi envie de m'intéresser au cas du Stade Vélodrome, qui est un équipement semi-public on va dire, qui a une échelle internationale et qui du coup draine beaucoup de mouvements de population et qui est situé juste à côté d'un fleuve, en fait, le petit fleuve de l'Uvonne, et qui était aussi une zone où le programme pour l'itensant était déjà intervenu. Donc ça a motivé le choix de Marseille. Pour Arles, c'est une ville qui a un rapport historique avec le moustique via la Camargue, et j'avais des rapports historiques sur les anciennes épidémies de paludisme dans la région. Et j'avais envie de voir comment justement était traité le moustique tigre après cette histoire. Et est-ce que par hasard la Camargue toute proche n'était pas un peu le bouc émissaire de la lutte antivectorielle dans la région? La réponse est oui. Et enfin, Salon de Provence, ça a été une des premières villes qui a introduit dans son PLU des mentions de la lutte antivectorielle et des méthodes de lutte contre la prolifération des moustiques dans le bâtiment. Donc j'ai voulu m'intéresser à ce cas-là.
Merci. Une autre question ?
Oui. Alors, je suis peut-être à côté, mais est-ce qu'une démarche participative impliquant les habitants dans une cartographie, les gestes, etc., aurait un sens ?
Alors, la conception participative dans l'architecture et l'urbanisme, c'est un sujet qui est ancien dans les recherches en architecture et en urbanisme. C'est quelque chose qui est instauré de plus en plus et qui est mis en place maintenant par les collectivités avec différents niveaux de succès. Ça vient de la simple information qui est appelée consultation, mais en fait, c'est juste une communication qui est verticale, à de véritables mises en place de projets horizontaux où les futurs usagers vont participer à la conception et à la construction même de leur futur environnement. L'intérêt vis-à-vis de la lutte antivectorielle, c'est en particulier que les personnes qui vont utiliser les espaces bâtis sachent quelles vont être les zones à risque et les zones sur lesquelles ils peuvent intervenir après pour régler un potentiel problème de prolifération de moustiques. L'autre avantage, c'est éventuellement de conserver des documents en fait, sur les méthodes d'entretien et d'usage du bâtiment pour continuer à pouvoir assurer une bonne utilisation et une bonne santé aussi du bâtiment pour favoriser la santé de ceux qui l'utilisent. Donc c'est ça l'intérêt de la conception participative dans le temps et du retour d'expérience sur le long terme et de créer en fait, c'est un peu utopique, mais de créer éventuellement une discipline architecturale et urbaine qui est basée sur le long cours et le temps long, puisqu'en fait la réalité c'est que le temps du bâtiment ça devrait être un temps très long, éventuellement un temps sur plusieurs siècles au-delà de la vie d'un seul être humain.
Merci, il nous reste peu de temps, mais un petit peu quand même.
Oui, une question dans le cadre de ta thèse, mais aussi actuellement, tu as été amenée à travailler avec différents acteurs, et qu'il y a, de ce que j'ai entendu ce matin, il y a pas mal de doctorants, doctorantes qui sont un peu dans la même configuration que toi. Est-ce qu'il y a eu certains moments où on t'a assigné un rôle en fait ou une posture avec laquelle tu n'étais pas confortable, par exemple quand tu travaillais avec les acteurs du bâtiment? Est-ce que tu peux tirer quelques enseignements de ton expérience, peut-être pour donner quelques conseils aux collègues qui pourraient se retrouver dans une situation pareille à la tienne? Comment tu as fait pour composer avec ta posture académique et leurs intérêts?
Alors ma position en tant que doctorante, c'était celle en fait d'une jeune femme qui posait une question que des hommes qui travaillaient dans le domaine depuis souvent plusieurs dizaines d'années ne s'étaient jamais posées et trouvaient particulièrement absurde, voire amusante. Il y a eu beaucoup il y a eu un exemple, par exemple, où j'étais dans un bureau d'études d'ingénieurs et où je me retrouvais dans une salle où trois hommes qui avaient facilement 20 ans de plus que moi, trois ou quatre hommes rigolaient plus ou moins ensemble de la présence de moustiques dans des bâtiments et quand est-ce que ce serait les punaises de lit ou les cafards. Et puis au fur et à mesure, avec le temps de l'entretien qui durait en général jusqu'à une heure au moins, la moquerie cessait pour se mettre dans la position de réfléchir ensemble à une question qui n'était pas... En fait, ils finissaient par comprendre que l'idée, c'était pas forcément d'intervenir dans l'immédiat et de leur imposer des réglementations tout de suite, mais de commencer à réfléchir avec eux à une problématique de confort, notamment. Parce que il faut être assez clair, la menace sanitaire de la lutte antivectorielle, enfin des maladies vectorielles dans l'Hexagone, elle n'est pas très prégnante actuellement. L'idée de commencer à développer des stratégies de lutte antivectorielle liées au bâti, c'est de créer en fait un bouclier environnemental contre des risques sanitaires et épidémiques, afin de gagner du temps le jour où ce sera vraiment un problème un peu plus prégnant. Ce qu'on n'a pas fait par exemple avec le Covid-19. Donc l'idée, c'est de prendre de l'avance pour créer en fait des barrières au progrès épidémique. Et à partir du moment où ils comprennent que la démarche, c'est ça, en fait, c'est une démarche de recherche auquel ils sont conviés, mais ils sont vachement plus détendus et ils commencent à prendre les choses avec plus de sérieux et à se dire « oui, ben, pourquoi pas ?» Et en plus, si ça peut déjà apporter plus de confort aux usagers, ben, c'est tout bénef en fait pour tout le monde. Et à partir de ce moment-là, ils commencent à devenir un peu plus actifs et un peu plus coopératifs.
Bien, merci.